BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Une heure H avec beaucoup d'actualités. Évidemment, on reviendra sur le sommet, sur le climat. On en parlera avec Antoine Lemarchand. C'est le patron de Nature et Découverte. Vous savez, un des pionniers dans l'écologiquement responsable. On parlera aussi d'Amazon, de l'e-commerce. Avec François Monbois, qui est président de la FEVAD. Il sort ses chiffres ce matin. Des chiffres qui montrent que les arbres montent parfois jusqu'au ciel. Et puis, on en parlera aussi avec Vincent Maillet, qui est donc directeur chez Havas. Et puis, je recevrai enfin le député de La République En Marche, Guillaume Gasparian. Il a fait ce rapport pour comment faire plus en fait demandant moins, comment faire plus d'usines en demandant moins de formalités administratives. Il sera en studio avec nous. Mais pour l'instant, on passe à l'actualité, une actualité très très forte avec cette décision du côté du Brexit avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. C'est effectivement, c'est un coup de tonnerre là qui vient de tomber en Grande-Bretagne, hein, puisque la Cour suprême britannique vient de juger illégale la suspension du Parlement demandée par Boris Johnson. Thierry Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Décision historique donc là qui vient de tomber en Grande-Bretagne.
Oui, effectivement, la décision n'aurait pas pu être plus accablante que celle que vient de rendre la Cour suprême. Elle est unanime pour dénoncer comme illégale la demande faite par Boris Johnson, le Premier ministre, à la reine de suspendre pour plusieurs semaines les travaux du Parlement, dans l'espoir bien sûr de pouvoir avancer le plus vite possible vers un Brexit sans accord. C'est du coup ce scénario qui est remis en cause aujourd'hui. C'est du coup évidemment toute forme d'autorité politique pour le Premier ministre britannique aussi, et d'ores et déjà, même s'il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas quitter ses fonctions, les appels à la démission se multiplient en tout logique contre Boris Johnson. Pour autant, la décision d'aujourd'hui, si elle le met dans une grande difficulté, n'apporte pas beaucoup de visibilité supplémentaire sur ce qui pourrait se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ce que l'on sait, c'est que les débats parlementaires, les travaux du Parlement vont pouvoir reprendre, mais on sait qu'il n'y a pas de position claire chez l'ensemble des conservateurs. On a pu constater au congrès du Parti travailliste qu'il n'y avait pas non plus de position claire chez l'ensemble des travaillistes. Donc si le scénario d'une marche inexorable vers un no deal au 31 octobre est en quelque sorte un peu remise en cause, il n'est pas pour autant beaucoup plus clair de savoir dans quelle direction on va avancer.
Thierry, est-ce que ça veut dire éventuellement que l'Europe peut peut-être ouvrir une fenêtre, demander, autoriser enfin un nouveau délai par rapport à ce 31 octobre ?
Alors, l'Europe, et en particulier les Français, ont toujours tenu la même position depuis le début, c'est qu'ils sont prêts à discuter à la condition qu'un événement justifie cette discussion. Alors l'événement auquel chacun pense, c'est évidemment un changement de gouvernement et l'organisation d'élections législatives, parce que là, pour le coup, avec un nouveau Premier ministre, avec un nouveau gouvernement, peut-être une nouvelle majorité, il y aurait matière à discuter, éventuellement à remettre la copie sur la table. Mais encore une fois, la raison pour laquelle Boris Johnson peut encore espérer au moment où on se parle, Edwige, c'est que si lui est dans une position très faible, il n'y a pas d'alternative forte et évidente à ce qu'il propose aujourd'hui. Il n'y a pas de majorité pour quelque chose. Depuis le début de ce feuilleton incroyable du Brexit, il n'y a que des majorités contre. Les Britanniques ne cessent de nous dire ce qu'ils refusent, les scénarios dont ils ne veulent pas. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, en tout cas à trouver une majorité pour nous dire ce que pourrait être le scénario du Brexit.
Merci Thierry. Puis on se souvient hier, mon invité était donc Pascal Lamy, l'ancien commissaire européen qui connaît très bien en l'occurrence Boris Johnson, qui disait, il ne faut pas oublier, je crois qu'il a rencontré une trentaine de fois, c'est un super joueur de poker, hein, donc il faut s'attendre à tous les coups avec lui. Merci. On poursuit, Thomas ?
On poursuit. L'autre grosse actualité de la journée, bien sûr, c'est l'ouverture à New York de la 74e Assemblée Générale de l'ONU, avec évidemment la question iranienne au cœur des discussions. Aucune rencontre officielle pour l'heure n'est prévue entre les présidents américains et iraniens, mais Donald Trump dit ne rien exclure. Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec Hassan Rouhani et lui a notamment expliqué que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni jugeaient l'Iran responsable des attaques contre l'Arabie Saoudite. Et puis sur le front des tensions commerciales, les États-Unis indiquent que les négociations avec la Chine vont reprendre dans 2 semaines et non plus la semaine prochaine, comme c'était prévu au départ. Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, et le représentant américain au commerce Robert Lighthizer vont retrouver une délégation chinoise menée par le vice-premier ministre Liu He. François Villeroy de Galhau s'en prend à Mario Draghi, ou en tout cas à la dernière décision de politique monétaire. Le gouverneur de la Banque de France déclare qu'il était contre la reprise des rachats d'actifs obligataires annoncés il y a 15 jours et que cette décision n'était pas nécessaire à l'heure actuelle avec des taux d'intérêt qui sont déjà très bas. Et puis pour finir, 2 décisions de justice européenne importantes sont tombées ce matin. Et d'abord une décision fiscale qui concerne Starbucks et Fiat. Les 2 entreprises avaient été condamnées par la Commission européenne à verser chacune 30 millions d'euros pour des arriérés d'impôts. Sauf que que le tribunal européen en a décidé autrement. En tout cas pour Starbucks, qui n'est pas jugé coupable. Fiat, en revanche, est bien condamné à rembourser 30 millions d'euros au Luxembourg. Et puis l'autre décision européenne très importante de la mi-journée, elle concerne nos données, puisque la Cour de justice de l'Union européenne déclare que Google n'a pas à appliquer le droit à l'oubli dans le monde entier, mais uniquement dans les pays de l'Union européenne. Google contestait cette amende de 100 000 euros infligée en 2016 par la CNIL. BFM Business, il est midi 5. On file sur le CAC 40 à la mi-journée. Le CAC qui progresse légèrement, qui gagne 0,24% à 5 644 points. L'euro-dollar, quant à lui, est stable. 1 euro s'échange pour 1,10 $ tout rond.
Merci Thomas. Bien sûr, on vous retrouve à 12h30 dans un instant. C'est François Monbois, le président de la FEVAD, qui est avec nous, et Vincent Maillet, directeur général d'H-Commerce, qui publie Amazon, main basse sur le futur. Vous verrez, l'e-commerce, ça continue à exploser. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Nos invités, en l'occurrence dans leur H, François Monboise, président de la FEVAD, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez ce matin justement les chiffres pour le deuxième trimestre et on voit que les arbres ils montent jusqu'au ciel pour l'e-commerce. C'est encore assez spectaculaire. On va voir ça dans un instant. Et puis à côté de vous, face à vous, Vincent Maillet, qui est directeur général d'Avas Commerce, bonjour.
Bonjour.
Et vous publiez Amazon, main basse sur le futur, avec une préface de Yannick Bolloré. Et vous publiez chez Robert Laffont. Donc c'est intéressant de voir justement, parce qu'Amazon, c'est une des clés du succès, bien sûr, de l'e-commerce en France. Est-ce que c'est pas trop, j'espère que vous n'êtes pas complètement d'accord avec François Monboise. François Monboise, ces chiffres, donc 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, on peut continuer à donner, c'est incroyable.
C'est la croissance continue, en fait, 13% de croissance. On est depuis 5 ans entre 10 et 15% de croissance, trimestre après trimestre. Donc la croissance est tirée par plus d'acheteurs, on a encore plus d'acheteurs, 39 millions d'acheteurs à date, et la progression est dans toutes les catégories d'internautes, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est 87% des internautes qui achètent. Et même sur les retraités ou les plus de 60 ans, c'est 80%. Donc vraiment, tous les gens qui ont Internet achètent sur Internet et réachètent.
Oui, et comme il y a justement toute une phase de la population qui se met à Internet, notamment les retraités dont vous parliez.
Ils achètent à 80%. Ouais. Et donc c'est tiré par plus d'acheteurs et puis la fréquence d'achat qui monte. Mmh. On est à 12 achats et demi sur le trimestre, en gros un achat par semaine. Il y a 3 ans, on était à un achat par tous les 15 jours, et maintenant on est à un achat par semaine.
Oui, et le nombre de transactions n'est pas plus 19, enfin plus 20%, ouais. Quoi, grosso modo. 415 millions de transactions en 3 mois.
Oui, ça continue. Ouais. Et les phénomènes de, enfin pas de boycott, mais parce qu'on parlera peut-être d'Amazon, mais enfin...
On va certainement en parler, oui.
On a eu des appels ministériels disant plus ou moins de ne pas acheter sur Internet. On a eu ça au moment du Black Friday, on a eu des critiques.
Non, mais on peut acheter ça.
Les consommateurs.
On peut ne pas acheter chez Amazon et acheter sur Internet, non?
Amazon continue à être en tête des audiences nettement.
C'est combien par rapport au.
C'est 5 millions de visites par jour. Ouais. Par jour.
Et après, c'est vendre. Chiffre d'affaires.
Privées. Ah, ils ne le donnent pas. Ils vendent
mais
privées
vous,
deuxième
vous,
à 2
vous,
millions
devez, d'œufs. Vous devez bien voir, non?
Non, ce n'est pas facile à voir, le chiffre d'affaires d'Amazon. Je ne sais pas s'ils les vendent en traite. Ils ne donnent pas leurs données pays par pays. Ils ne donnent que les données qu'ils ont envie de donner par pays.
Mais dès lors que vous savez qu'il y a 25 milliards, attendez, on est à l'école, peut-être que Vincent Maillet, vous pouvez le faire avec nous. Il y a 25 milliards de chiffre d'affaires, d'accord. Oui. Il y a 415 millions de transactions. Il y en a 5%, c'est ça, qui sont réalisées par Amazon.
C'est toute la question. Savoir s'il y en a 5, 10, 15, 20, je pense qu'il y en a plus. Non, je dis qu'Amazon a 5 millions de visiteurs par jour.
Oui, d'accord. Donc, je me demande si on ne peut pas règle de 3.
La statistique que j'avais en tête, c'était 20% du e-commerce, en fait. Amazon pesait 20% du e-commerce en France, ça me paraît
environ,
beaucoup.
Environ, on pense. Mais
c'est ça. Donc, sur 25 milliards, vous faites le calcul.
Etats-Unis, c'est la moitié du e-commerce.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que vous êtes capable de mesurer la progression d'Amazon?
On mesure la progression des audiences, puisque ça, elles sont mesurées par Médiamétrie. Mm-hmm. Et on sait qu'Amazon est numéro 1 en audience, clairement, nettement. Puisqu'ils sont à 5 millions de visiteurs uniques par jour, et le deuxième, c'est vente privée, VP, ils sont à 2 millions 9. Donc ils sont quand même 2 millions au-dessus de vente privée.
Panier moyen, 60 euros, vous l'avez dit.
C'est
frites. Par contre, un peu, et c'est frites.
Mais ils s'effritent régulièrement. C'est-à-dire que la fréquence d'achat monte et le montant du panier baisse. Alors c'est à la fois dû à des gens comme Amazon qui proposaient forfait de livraison, et puis tous les petits sites, les Wish, les Vevo, etc., où les paniers d'achat sont tout petits.
70 millions de commandes sur les 12 derniers mois, quand même. C'est assez impressionnant. Ça montre la puissance de l'e-commerce et d'Amazon, Vincent Maillet, puisque c'est l'objet de votre livre. On va y revenir plus précisément, mais...
Tout à fait. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est les variables en fait structurelles sont toujours plus fortes que les variables conjoncturelles. C'est clairement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'e-commerce apporte un service évident au consommateur qui est de lui apporter à peu près tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, tout ce qui se vend directement chez lui, et donc du coup, il en profite et il utilise le service, quelles que soient d'ailleurs les réserves qu'on peut avoir sur l'empreinte carbone ou des choses de ce genre, parce que clairement c'est un service qui devient assez rapidement difficile à remplacer ou en tout cas difficile à arrêter. Quand on peut recevoir chez soi assez facilement toutes les données, tous les produits qu'on a envie d'acheter.
Comment vous expliquez ce succès d'Amazon ? Après, on rentrera plus dans le détail.
Le succès d'Amazon, il est
c'est la livraison dont parlait François Monvois.
C'est la livraison. Et puis, en fait, d'ailleurs, Jeff Bezos l'explique en trois. Il y a trois points. Il y a le premier point, c'est le plus vaste choix. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, quand vous regardez dans un hypermarché, par exemple, vous prenez un grand hypermarché, il y a à peu près 50 000 références. 50 à 60 000 références. Il y a plus de 600 000 références, en fait, sur Amazon, entre la marketplace et Amazon.com, c'est le retailer qu'il est. Donc c'est énorme. Et vous prenez les marketplaces Alibaba, c'est pire. On dépasse le milliard de produits accessibles sur les marketplaces Alibaba. Donc c'est juste absolument énorme. Donc le tout sous le même toit qui était la force des hypermarchés jusqu'ici est un peu battu en brèche par ces sites qui sont capables d'offrir un choix absolument incroyable. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, vous commandez, vous êtes livré chez vous pour un prix qui est quasiment moins cher que certains commerçants. Donc c'est juste hallucinant. Et puis après, à la vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit Amazon imposer des standards qui sont très difficiles à tenir, absolument énormes, puisque vous êtes livré dans la journée, voire dans la demi-journée, selon les produits que vous consommez. Et en Chine, ça va encore plus vite. C'est-à-dire que j'étais en Shanghai l'année dernière, et en gros, aujourd'hui, ils sont capables de s'engager sur des livraisons en moins d'une heure, voire moins d'une demi-heure. Donc, c'est vous dire à quelle vitesse ça va aujourd'hui en termes de livraison. Donc, le consommateur... Quand vous êtes une mère de famille ou un couple, hein, et que vous travaillez, c'est plus simple de se faire livrer forcément que d'aller se déplacer. Et voilà.
Est-ce que c'est un gros problème pour vous, pour la FEVAL, François Monvois ? Je sais bien, vous devez jongler avec tous les acteurs. Hein, donc,
Quoi ? Quel problème ?
Non, la croissance, non, ça vous est toujours favorable, ça je sais. Non, mais en l'occurrence, c'est le poids croissant d'Amazon et le côté incontournable, je veux dire. Enfin,
c'est un acteur qui est dominant, c'est vrai.
Oui,
mais qui est dominant sur des bases qui sont favorables aux consommateurs, et c'est-à-dire se leur défendre. C'est-à-dire qu'ils ont la gamme la plus large, enfin, c'est ce qu'ils répètent. Les trois points qu'a cité Vincent Maillet, c'est ce que répète Amazon tout le temps depuis qu'ils sont créés. La gamme la plus large, les prix les plus bas, la livraison la plus rapide. Ça, c'est pour le consommateur.
Mais est-ce que vous avez des adhérents au sein de la FEVAL?
C'est dur pour les adhérents de se battre contre Amazon,
oui,
ça c'est clair.
Et qui vous disent, attends, il faut essayer de faire quelque chose, il faut limiter le prix d'Amazon.
Ils essayent, par exemple, Cdiscount, qui est le numéro 2 en France, vient de faire une alliance avec d'autres places de marché européennes dans d'autres pays. Mais le problème, et c'est pas que sur le marché du e-commerce, c'est qu'en Europe, les seuls qui sont vraiment européens, c'est les non-européens. C'est Amazon et Alibaba. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de site allemand, si, à Zalando. J'ai tort, mais en britannique ou espagnol, qui soit très fort en France. Inversement, les sites français ne sont pas forcément très forts en Allemagne ou en Angleterre, etc. Donc le seul qui est partout, qui a des bases de données sur tous les clients dans 28 pays, c'est Amazon. Et maintenant Alibaba. Et ça, c'est un problème, oui.
Et c'est d'autant plus un problème, je lisais une enquête du Wall Street Journal très intéressante que vous avez sans doute lue. On en retrouve du reste un peu des éléments dans votre livre. C'est qu'en fait, il y a un nouvel algorithme depuis quelques semaines chez Amazon. Et en fait, cet algorithme, il favorise les produits Amazon, sous marque Amazon. Oui. Et donc, il les met en avant. Oui. Donc, ça pose un problème aux autres... aux autres vendeurs.
Oui, alors c'est le reproche qui lui est fait qui est assez lourd. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la distribution historiquement,
mais il y a un nouvel algorithme, vous confirmez ?
Non, je sais pas. Je veux pas dire ça, j'en sais rien.
C'était une double page du Wall Street Journal qui disait
non,
ça.
Non, j'ai lu l'article comme vous c'est vrai que Amazon a depuis 2017 une politique de marque propre très agressive. C'est-à-dire que vous avez plusieurs types de marques, vous avez donc notamment la marque Amazon Basics, la marque Amazon Basics, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver chez Amazon, et que vous retrouvez dans quasiment toutes les catégories de produits. Vous avez une marque Amazon Basics qui est positionnée en face des marques de fabrication. fabricants. Donc ça c'est vrai. Et puis il y a eu une deuxième accélération qui est carrément des marques propres, c'est-à-dire des marques dont on sait pas qu'elles ont pas le préfixe Amazon, donc on sait pas que ce sont des marques Amazon et qui se développent aussi très fortement, notamment dans tout ce qui est équipement de la personne, textile, bijouterie, accessoires, etc. Mais donc qu'il y ait une accélération très forte et qu'il y ait une volonté pour gagner en marge et gagner l'argent de la part d'Amazon, donc d'accélérer sur ces produits-là, il n'y a pas de doute, clairement. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont changé l'algorithme ? Moi, je suis...
Là, vous après, pouvez pas confirmer en tous les cas.
Il faut aller dans le moteur, quoi. Il faut aller dans le moteur pour le vérifier. Ouais. Et ça, je peux pas...
C'est pas vraiment une condition qu'un distributeur mette en avant ses propres produits.
Exactement.
Chez Carrefour, Leclerc, Casino, on voit ça tout le temps.
Faut juste... Oui, mais normalement, je crois que Amazon, c'est pas censé. C'est ce qu'il doit mettre en avant. C'est le produit le plus vendu, c'est le produit le moins cher, c'est le produit qui correspond le plus, parce que comme ils savent très bien ce à quoi vous aspirez, et donc le produit qui va le mieux vous correspondre.
Il y a des gros débats là-dessus, effectivement, vous avez raison. C'est un point. C'est-à-dire qu'ils le classent en général par popularité.
Oui.
Les gens ne savent pas trop bien ce que ça veut dire, la popularité. Oui. Mais ils ne classent pas du moins cher au plus cher. En fait, eux, ils optimisent pour que vous trouviez le produit que vous voulez le plus vite possible. Donc, ils ont intérêt à mettre devant le produit que vous allez acheter. C'est comme ça qu'ils justifient que s'ils savent que vous achetez des produits chers, ils vont peut-être vous mettre un produit plus cher. S'ils savent que vous, Vincent, vous achetez des produits pas chers, ils vont peut-être changer. Ils ont envie que ça se passe bien et que vous quittiez la page le plus vite possible avec un produit dans le panier.
Alors, il y a un truc qu'on sait assez peu.
Non, mais au contraire.
Il y a un truc qu'on sait assez peu et qu'il faut garder en tête. C'est que Alibaba, clairement, AliExpress en Europe, est clairement une marketplace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de velléité, en tout cas aujourd'hui chez Alibaba, de vendre des produits Alibaba ou AliExpress à la marque Alibaba ou AliExpress. Et dans le business model d'Amazon, en gros, vous avez les deux activités. Vous avez l'activité retail, entre guillemets, distribution, parlons classique, qui consiste à acheter, stocker et vendre. Et puis vous avez une activité marketplace qui consiste à faire venir sur le site Amazon et donc bénéficier de la logistique des marques qui n'ont pas été, en tout cas des produits qui n'ont pas été achetés par Amazon mais qui viennent vendre directement sur l'audience et donc la population qui fréquente Amazon. Et donc aujourd'hui, très clairement, dans l'espèce de duopole qui est en train de s'instaurer aujourd'hui, Amazon a tout intérêt à développer la marketplace, donc à donner des gages justement d'une grande vigilance sur la gestion de ces marques tierces qui ne sont pas des marques Amazon et qui veulent se développer aussi sur Amazon. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à terme, je ne serais pas étonné qu'on voit une évolution assez forte d'Amazon sur cette dimension marketplace à terme.
Vous êtes d'accord, François Monbois, c'est ce que vous...
On verra. Je pense qu'ils vont continuer à garder les deux, c'est-à-dire ouais. Faire de l'achat-vente aussi. Parce que, et même, vous savez, pour les produits tiers qu'ils acceptent en marketplace, ils proposent aux petits marchands de stocker les produits chez eux ouais. pour gagner en logistique et aller plus vite. C'est un service proposé et payant, bien sûr.
Ouais. Et en même temps, on voit bien, vous avez raison, la logistique est très impressionnante. Vous le racontez bien dans votre livre, c'est que la robotique, et puis on voit souvent des reportages, des difficultés, notamment pour les gens qui travaillent chez Amazon, mais le robot prend la place de l'humain de manière assez spectaculaire. C'est presque la première manifestation.
Disons qu'il y a un mouvement général, mais qui est lié à la logistique au sens large. Hein. C'est-à-dire que l'évolution de la logistique consiste à dire comment, quand je reçois une commande à telle heure, la commande sort le plus rapidement possible de l'entrepôt. Et quand vous voulez livrer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça passe effectivement par une automatisation exacerbée, clairement.
Deux questions, François Monbois, mais du reste, si vous avez le droit d'intervenir, hein, en l'occurrence, c'est est-ce que la fraude à la TVA, on sait que Gérald Darmanin s'en est emparé avec Cédrico, fraude à la TVA sur l'e-commerce, ça représente quoi à la FEVAD?
On ne sait pas. Enfin, c'est un sujet. Et on est tout à fait d'accord avec le gouvernement pour mettre en place le plus vite possible la directive européenne. C'est-à-dire rendre les plateformes responsables du paiement de la TVA sur des marchands hors Union européenne. Puisqu'actuellement, malheureusement, il y a certains sites où on achète le produit hors taxe, puis on vous dit en tout petit d'aller payer la TVA, ce que personne ne fait. Ça, c'est une distorsion de concurrence et donc ça va être fait. Ça va être mis en place.
D'accord. Donc là,
c'est très bien.
Vous êtes très 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 papa. L'autre point intéressant, c'était dans le baromètre que vous publiez aujourd'hui, vous dites c'est un peu la première fois qu'on voit qu'il y a un réflexe écolo-responsable, un achat qu'aujourd'hui les gens font attention à ce qu'ils achètent. Ils achètent moins n'importe quoi.
Exactement.
Parce que c'est moins cher et c'est sur Internet.
C'est-à-dire que le e-commerce, c'est du commerce, donc c'est une tendance de fond du commerce. Et le e-commerce aussi, surtout chez les millennials. Les millennials veulent vraiment à 40%, je crois, changer leur façon de consommer de manière responsable. Mais on le voit dans la liste des sites du top 15 Médiamétrie, il y a un site qui s'appelle Vinted, qui est apparu il y a très peu de temps, et qui est le troisième en fréquentation quotidienne. Ils sont à 2 800 000 visiteurs par jour. Et Vinted, c'est téléphone à 80% et c'est achat-vente. La pub, c'est j'ai quelque chose dans mon placard dont je ne me sers pas, je le revends, et avec l'argent, je rachète autre chose.
Ouais,
exactement.
Ouais,
donc une clientèle jeune. Et c'est les doubles bénéfices, parce que c'est éco-responsable et vous achetez moins cher. Mais je pense que ça va être un mouvement de fond, non seulement dans l'e-commerce, mais dans tous les marchés textiles. Hein. Le phénomène d'achat, vente d'occasion, de recycler, etc. Les jeunes sont très sensibles à ça.
Vincent Maillet, vous l'observez, vous, chez Havas.
Moi, j'ai travaillé longtemps et je continue à travailler pour Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin, qui est le quatrième ou le cinquième plus gros
site en France. Antoine Juteau.
Antoine Juteau, et qui est clairement positionné là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, on donne une deuxième vie aux produits d'occasion, et puis on permet aux gens aussi de faire un peu de pouvoir d'achat qui n'est pas non plus...
C'est quoi le monde idéal selon Jeff Bezos? Parce que vous racontez bien un peu tout ce qu'il essaye en tous les cas d'afficher, enfin la vitrine Jeff Bezos.
Le monde idéal de Jeff Bezos, c'est vous êtes chez vous, en fait, vous n'avez pas besoin de sortir spécialement pour faire vos courses. Il y a toute une partie des produits, notamment les produits un peu fonctionnels, utilitaires, qui vous enquiquinent, ça vous embête d'aller les acheter en magasin, etc., ou de vous déplacer. Et donc ça, on va vous les livrer, et en fait, ils vont disparaître complètement, finalement, de votre champ de vision. Ils seront livrés directement chez vous, dans votre garage, dans votre cuisine, vous le verrez même pas. Le monde de Jeff Bezos, c'est Alexa au cœur de la maison, c'est-à-dire la domotique totalement préemptée par Amazon. Vous aurez des écouteurs Alexa à peu près dans toutes les pièces et vous pourrez, en parlant comme ça un peu tout seul, hein, ça fera bizarre, mais vous pourrez dire tiens, ben, j'ai besoin de piles ou j'ai besoin de m'acheter tel produit, etc. Et les choses se feront quasiment toutes seules. Vous aurez un petit robot, donc Alexa aura un corps physique, hein, parce que c'est déjà annoncé, il s'appelle Vesta. Et donc Vesta sera là chez vous et pourra gérer pour vous et fera l'interface avec tous les produits électroménagers de la maison. Vous commanderez bien entendu la lumière, mais c'est déjà le cas. Le four, le frigo, la porte d'entrée, le chien qu'il faudra nourrir, et Vesta pourra se charger peut-être de le nourrir sans que vous soyez là.
Vous y croyez, vous, François Monboise, donc la FEVA, dans le système aussi.
Je crois que Bezos est un visionnaire. Ouais. Clairement, si Amazon est aussi fort, c'est que c'est quelqu'un d'absolument
très
exceptionnel.
Exceptionnel. Vous décrivez bien.
Voilà, exactement. Ouais. Et qui est toujours en avance sur son temps, toujours à chercher de faciliter la vie des gens. Moi, ce que je crois, effectivement, c'est que pendant un siècle, enfin... pour faire les courses, on n'avait pas le choix, quoi. Il fallait faire une liste des courses et c'était un peu de la corvée. Il fallait aller au magasin le samedi, etc. Et ça, Bezos a compris que les gens n'ont pas envie. Certains produits, certains types d'achats, le fond de placard à réassortir toutes les semaines, les gens n'ont pas envie d'y passer du temps.
Est-ce que vous avez le sentiment quand même par rapport à cette offensive incroyable d'Amazon quand même, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une prise de, enfin pas de conscience et plus que ça, mais est-ce qu'il y a une envie de se battre de la part des acteurs de e-commerce en France?
Ah oui, clairement. Amazon vous oblige à être excellent, puisque quand vous avez un concurrent qui est le numéro un, qui a une gamme large, des prix bas et qui livre très vite, ça met la barre très très haut pour tous les concurrents. Mais les concurrents se battent, oui, effectivement. Les French Days, par exemple, c'est une initiative de sites français. Alors Amazon a rejoint un mouvement, mais au début, c'était des sites français qui se sont dit, bon, on va faire une promo au mois de mars-avril, période un peu creuse, on n'a pas encore les soldes, etc. Oui, clairement, il y a une volonté. Et la France est un des pays où on a... dans les plateformes, il n'y a pas qu'Amazon. On a Cdiscount, on a Fnac, on a Vente Privée, on a des sites qui sont costauds.
La Redoute.
La Redoute, bon exactement. Coin. Voilà, un bon coin qui est... Nous, on l'a pas parce que, c'est, comme vous dites, c'est pas vraiment du commerce, c'est de la mise en relation de gens. Mmh. Mais c'est très gros,
oui,
le bon coin.
Mais maintenant, c'est devenu tellement central que c'est bizarre que ce soit pas la FEVA.
Définition. Ils sont pas dans les panels, quoi. Ils sont avec nous, on travaille avec eux. Mais ils ont pas les mêmes problématiques, puisque nous, la plupart de nos adhérents, ils font de l'achat-vente, vraiment.
Oui, d'accord, c'est ce qu'il faut faire. Cadres. Alors, il y a un point très important, évidemment, c'est toutes ces incroyables quantités de données que, sur nous, que accumulent notamment les GAFAM et en tête desquels Amazon.
Pas que les GAFA. Hein. Enfin, on a tendance à oublier l'Asie parce qu'on a l'impression qu'on les voit
sûr,
pas. Mais les Chinois, en fait, on fait de la data, le futur pétrole. Hein. Ils se sont positionnés clairement sur l'intelligence artificielle et la gestion des data.
D'où le titre de votre livre, Main basse sur le futur.
Oui.
Ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, entre guillemets?
Alors, en gros, il y a trois. Si vous regardez dans la distribution, il y a trois disruptions. Moi, je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Mais je regarde au travers du prisme qui est le mien, qui est le commerce. Donc la première disruption, c'est la livraison. C'est ce qu'on vient d'évoquer tout de suite, c'est la facilité qu'apporte ces sites de livrer. Machin. Mmh. La deuxième, ce sera la voix, c'est-à-dire la possibilité via l'interface vocale de commander de chez soi. Ouais. Et la troisième, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire cette capacité qu'auront ces assistants vocaux ou tous ces outils techno qu'on aura à finalement prédire et nous apporter un service extrêmement adapté. C'est-à-dire, vous êtes à tel endroit, à telle heure, et vous aurez un rendez-vous une heure plus tard, et bien cette intelligence artificielle saura vous apporter le service, le produit, la solution qui va correspondre exactement à votre besoin. Et en gros, le sujet, c'est de se rendre indispensable. C'est-à-dire que ces nouveaux, cette utilisation de la data, elle est faite pour être tellement perspicace dans la manière de nous accompagner et de nous servir, que finalement, on ne peut plus s'en passer.
Oui, on ne peut plus s'en passer. Cela dit, il y a quand même un truc, je cherche une table de jardin, d'accord ? Donc, table de jardin, je regarde. Y a... du coup, maintenant, chaque fois que j'ouvre quoi que ce soit, j'ai apparaît une table de jardin. Mais j'ai bien fini par acheter ma table de jardin. Mmh. Donc, maintenant, je n'ai que des tables de jardin, absolument, chaque fois que j'essaie de savoir ce qui se passe en Grande-Bretagne ou ailleurs. Donc, vous voyez, c'est un peu les limites quand même de l'intelligence artificielle.
Ça, c'est le retargeting.
Là, vous avez raison, c'est qu'il y a un problème d'algorithme.
Mais si il y avait de l'intelligence artificielle, elle saurait que vous avez acheté, donc elle arrêterait. Mais effectivement, les sites qui font du retargeting, il y a des grands sites français dedans, Criteo, travaillent là-dessus, travaillent sur le fait de savoir que le client a acheté, donc il faut arrêter de l'embêter, parce que c'est le cas aussi, vous voulez passer un week-end à Rome, une fois que vous avez passé...
La protection des données, pour vous, c'est un des principaux enjeux à la FEVA de François Mamboise. Ou vous, le moment qu'il y a du business, c'est bon.
Non, mais c'est un... Il y a le règlement de la protection des données que suivent toutes les entreprises, FEVAD ou pas d'ailleurs. Ce que tout le monde oublie, c'est que le boulanger du coin qui a une liste de clients, il est soumis au RGPD. On se rend compte quand même que c'était assez monumental. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de résultats, à part des amendes de certains sites. Enfin, on respecte la protection des données. Mais je pense qu'il y a un peu un phénomène générationnel. C'est-à-dire qu'on est, les plus de 50 ans, beaucoup plus conscients de ça que les millennials. Bon, qui trouve que de même que le café du coin sait que vous prenez un café crème et un croissant, Amazon sait que vous aimez les romans policiers. C'est pas une atteinte formidable à la vie privée. Les commerçants, ils sont là pour vous vendre des choses.
Oui, mais parce qu'on a pris des produits neutres. Le problème, quand c'est des produits un petit peu plus personnels, c'est bien quand même.
Le problème, en avis, c'est les sites qui ne sont pas des commerçants, mais qui sont des sites qui vous proposent un service gratuit et donc qui se valorisent uniquement par les données, puisqu'ils vous proposent, enfin Facebook, c'est fabuleux ce qu'on vous propose gratuitement quand même. Oui. Pour échanger avec des amis partout dans le monde, des vidéos, des photos, tout ça.
Donc il faut,
il faut qu'ils aient un business model.
Oui, Vincent Maillet.
Alors, c'est un sujet qui est central pour moi. Mmh. Mais central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que nos données nourrissent en fait une machine qu'on appelle intelligence artificielle. Ça paraît très théorique aujourd'hui, mais pour vous donner une idée, vous voulez expliquer à un enfant le concept d'une voiture. Vous allez dessiner sur un papier une voiture, il aura compris ce que c'est qu'une voiture et il saura comprendre tout ce qui est, enfin, en tout cas, identifier une voiture. L'intelligence artificielle, pour qu'elle comprenne ce que c'est qu'une voiture, il faut lui donner des millions et des millions, voire des milliards d'images qui correspondent à une voiture pour qu'elle comprenne. D'accord ? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les GAFA, les Batix, sont en train d'emmagasiner un nombre d'images, un nombre de data absolument, mais alors c'est colossal, qui leur permettra demain, finalement, sur la mobilité, sur l'éducation, sur la banque, etc., de nous revendre, finalement, ces data. Ou en tout cas, d'utiliser ces data pour améliorer leur service. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui du commerce, clairement.
Absolument. Et aussi des autorités, en l'occurrence. Merci beaucoup, François Mamboise, donc président de la FEVAD, et Vincent Maillet. Amazon, main basse sur le futur. C'était l'objet de cette émission publié chez Robert Laffont. Dans un instant, je reçois Guillaume Kasbarian. Il est député de La République En Marche. C'est lui qui a été chargé de faire ce rapport, pour savoir comment faire pour ouvrir plus d'usines. Et puis ensuite, Antoine Lemarchand, mais qui lui aussi a un site, évidemment, Nature et Découverte. Il vient de se faire acheter par Fnac Darty. Il nous rejoindra à partir de 12h45. À tout de suite.
BFM Business, midi, leur H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Et tout de suite, avant de nous inviter, le rappel des titres avec Thomas Asportia. C'est Thomas, évidemment, c'est une information très importante qu'on a appris il y a maintenant une demi-heure sur le Brexit.
Absolument, cette bombe là qui vient de tomber à Londres. La Cour suprême britannique qui vient de juger illégale la suspension du Parlement demandée par Boris Johnson. On file à Londres, on nous attend Delphine Yu pour BFM Business. Bonjour Delphine. Tremblement de terre donc là, il y a maintenant une grosse demi-heure à Londres.
Bonjour. Oui, c'est effectivement une petite bombe que viennent de lâcher les juges de la Cour suprême britannique. Cette décision d'ajourner le Parlement est nulle et non avenue. Le Parlement qui a été privé en endroit fondamental sans justification. Un jugement donc extrêmement sévère de la part de ces juges de la Cour suprême. Le Parlement doit donc se réunir dans les plus brefs délais. C'est maintenant donc au président des deux chambres, de la Chambre des communes, puis de la Chambre des Lords, de décider du timing, quand est-ce que le Parlement va à nouveau se réunir. Alors que va faire Boris Johnson? Boris Johnson qui a donc menti à la reine pour pouvoir provoquer cette suspension du Parlement. Va-t-il démissionner? Il n'a pas voulu répondre à cette question quand on lui a posé à New York, où il se trouve en ce moment. Certainement, la pression va être extrêmement forte sur lui. En tout cas, il peut tenter à nouveau de suspendre le Parlement quand celui-ci sera à nouveau réuni, car ce n'est pas la suspension en tant que telle qui est illégale, c'est plutôt la durée totalement inédite, pas besoin de 5 semaines, on a jugé la Cour suprême, pour préparer un calendrier législatif et pour préparer un discours de la reine. 4 ou 5 jours auraient été largement suffisants. Donc il est clair que si le gouvernement tente à nouveau d'ajourner le Parlement ne va pas se laisser faire et va donc tenter à tout prix de pouvoir siéger sans arrêt jusqu'à la date du 31 octobre, de pouvoir avoir ce fameux débat sur le Brexit. En tout cas, c'est un nouveau camouflet et de taille pour Boris Johnson.
De taille, effectivement. Merci beaucoup Delphine Delphinu en direct de Londres pour BFM Business. Et puis l'autre grosse actualité de la journée, bien sûr, c'est l'ouverture à New York de la 74e Assemblée Générale de l'ONU. Évidemment, la question iranienne sera au cœur des discussions entre les chefs d'État. Aucune rencontre officielle n'est prévue pour l'heure entre les présidents américains et iraniens, mais Donald Trump dit ne rien exclure. Et puis pour finir, retour en France. Et après les mauvais chiffres du secteur privé hier, l'INSEE nous dit ce matin que le climat des affaires a légèrement progressé au mois de septembre. Il a gagné un point par rapport au mois d'août. Et en Allemagne, après les très mauvais PMI d'hier, vous les avez vus, et qui ont plombé un petit peu les marchés, eh bien le moral des entrepreneurs a quand même très légèrement rebondi au mois de septembre. BFM Business, bientôt 12h35, je vous redonne le CAC à la mi-journée, le CAC qui est légèrement dans le vert, qui gagne 0,21% à 5642 points. L'euro-dollar est toujours stable, 1 euro s'échange pour 1,10 $.
Merci Thomas. À suivre, le député La République En Marche, Guillaume Gasparian. On essaiera de voir comment on peut ouvrir plus d'usines en France.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Comment faire simple pour en avoir plus? Guillaume Gasparian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, député de La République En Marche d'Eure-et-Loir. Et puis surtout, vous êtes le monsieur, le rapport sur comment faire pour avoir plus d'usines et moins de formalités administratives qui bloquent l'implantation d'usines. Vous avez remis votre rapport hier au Premier ministre. Alors, vous n'avez pas voulu faire, je vous en félicite, un big bang fiscal administratif.
Déjà vu.
Vous avez déjà vu pour rien. Les placards sont remplis de bonnes intentions. Vous avez pris une dizaine de mesures. Ma question, c'est lesquelles? Et ensuite, c'est quand?
Déjà, la genèse de ce rapport, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en France, on met souvent beaucoup de bâtons dans les roues de ceux qui cherchent à créer des usines. Beaucoup de processus administratifs, une administration qui n'a pas forcément une culture industrielle, et puis un sentiment côté industriel qu'on ne les accompagne pas vraiment à la création de sites industriels.
Je vous le confirme, il y a ce même micro, là, que vous avez, même siège sur lequel vous êtes assis. Philippe Petit-Collin de Safran l'avait dit à propos de son usine à Villeurbanne, mais il y en avait plein d'autres aussi qui nous
Il y en a plein d'autres, et on les a d'ailleurs interrogés, puisqu'on a eu 3 mois de mission où on est allé sur le terrain. On a interrogé à peu près 70 industriels qui ont vécu ces processus d'installation et qui nous ont rapporté tout ce qui n'allait pas au cours de la procédure et au cours de leur expérience, entre guillemets, client. Mmh. Et à partir de ça, on s'est dit, on ne va pas baisser nos exigences environnementales. On ne va pas opposer écologie et industrie. On ne va pas arrêter de protéger la biodiversité. En revanche, on peut faire plein de choses, comme l'ont fait d'ailleurs la Suède et l'Allemagne, pour accélérer, pour transformer, pour fluidifier l'expérience client et faire en sorte que cette procédure administrative se passe le mieux possible. Et c'est l'objet du coup des 5 chantiers que l'on a proposés. Ouais. Qui vise du coup à mieux sécuriser les porteurs de projets face aux aléas de la réglementation qui peut changer en cours de route.
Ça veut dire quoi sécuriser?
Ben c'est par exemple que quand
moi
vous avez
remis... Moi je suis avec mon dossier, je viens vous voir, vous me sécurisez comment?
Dossier,
ouais.
Vous l'avez remis à la préfecture, vous avez fait tout ce qu'il fallait par rapport au contrat de confiance qu'on vous avait dit au départ. Et puis il se trouve que dans la procédure, au cours des 6 mois, 12 mois, 24 mois, on vient vous rajouter des choses parce que la réglementation a changé, parce qu'il y a une loi qui a été votée, parce qu'il y a eu un décret qui est passé, etc. Là, ce qu'on propose, c'est vu que vous avez déposé votre dossier au service administratif, vous avez une sorte d'immunité par rapport aux aléas de la réglementation qui peuvent arriver en cours de route. Ça, c'est la partie sécurisée. Un deuxième axe, il est autour de anticiper. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous installez votre usine, vous allez préférablement aller sur un terrain sur lequel un maximum d'études environnementales, archéologiques, etc. ont déjà été réalisées et déjà purgées. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pousser les collectivités, les aménageurs, à purger un maximum d'études environnementales et archéologiques avec la même exigence, mais qui permettrait du coup de vous faciliter la tâche le jour où vous souhaitez aller sur ce terrain-là.
C'est proposer des zones industrielles clés en main, en fait.
Exactement. Ouais. C'est des zones industrielles clés en main sur lesquelles vous avez fait des fouilles archéologiques, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de chauve-souris, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de scarabée protégée, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de grenouilles, etc., etc. Et vous avez tous les feux verts, ce qui fait que quand vous arrivez et que vous décidez de vous installer, la plupart des études ont été réalisées et vous avez un feu vert de l'administration en 6 mois.
Ça coûte cher, qui paierait ça?
Alors, c'est aujourd'hui déjà certains le font, des aménageurs ou des collectivités locales, par exemple à Fos-sur-Mer, on a vu une expérience où ça s'est réalisé. La question, c'est la durée d'étude de validité des études. Ouais. Si vous faites une étude chauve-souris, qu'elle n'est pas valable l'année qui suit, vous avez un peu perdu votre temps et votre argent. Donc la question, c'est d'augmenter la durée de validité de ces études et faire en sorte que vous ne les faites pas pour rien.
Ça fait deux fois, juste une question, pardon, Guillaume Casparian, ça fait deux fois, vous citez l'histoire des chauves-souris, visiblement ça vous a marqué. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, c'est très important les chauves-souris, hein, donc moi qui suis très écologique, je trouve ça très bien, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui vous ont un peu frappé, où on vous a dit, tiens, je me suis opposé à heurter à des trucs un peu fous?
On a eu, oui, bien sûr, sur les 70 témoignages, on a eu des témoignages, par exemple, sur les scarabées protégés à Toulouse, sur lequel un industriel a fait face à une espèce de scarabée qui était protégée. Il y a eu aussi le cas de papillons qui étaient protégés dans certaines zones industrielles. Et sur les chauves-souris aussi, beaucoup d'éléments sur le sujet. Mais en fait, ce que nous disent les industriels, c'est pas qu'ils ont un problème avec l'environnement ou l'écologie, c'est que ça peut se faire de façon administrative beaucoup plus simple. Je reprends, excusez-moi, l'étude chauves-souris, mais on a eu un industriel qui a fait son étude, et un mois plus tard, l'administration lui dit faut la refaire, parce qu'elle a pas été faite à la bonne heure. Sauf que comme vous avez passé le délai, il faut le faire en avril prochain. Et là, il dit, mais attendez, vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt. Vous n'aurez pas pu me le dire le jour J, comme ça je refais mon étude et on essaye de gagner 11 mois sur la procédure. C'est ça que j'essaye de faire dans le rapport. Ouais. C'est pas de révolutionner l'ambition environnementale parce qu'elle est juste et elle est nécessaire.
Il faut changer les mentalités, tout ça.
Mais c'est changer les mentalités. Ouais. C'est exactement un des axes de recommandation, c'est créer une culture de l'accompagnement, se mettre à la place de l'industriel, vivre ce parcours-là et le rendre le plus fluide possible tout au long du parcours.
Les pouvoirs des préfets renforcés pour gagner du temps, ça veut dire quoi? Parce que
ça veut dire qu'aujourd'hui
ils sont un peu sollicités partout pour installer les éoliennes. Bon, ça c'est pas terrible, mais
ça veut dire qu'aujourd'hui le préfet, il a l'autorité nécessaire dans les départements pour coordonner une multitude d'administrations. Quand vous créez votre site industriel, vous êtes face aux élus locaux avec le permis de construire, au ministère de la Culture avec la question des fouilles archéologiques et au ministère de l'Environnement avec toutes les études sur la biodiversité, les compensations, etc., etc. Ces administrations-là, elles sont un peu indépendantes. Ce qui fait que c'est un peu les 12 travaux d'Astérix. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez courir d'un bureau à l'autre pour vous-même aller faire les démarches. S'il y avait un préfet coordinateur, ce qui existe déjà dans certains départements, qui passe en revue chaque semaine les projets d'installation industrielle et qui coordonne les différentes administrations, on gagnerait là encore en fluidité et on aurait un vrai pilotage de ces projets industriels.
On ne peut pas imaginer, on parlait beaucoup des plateformes là tout à l'heure, dans le RH, on ne peut pas imaginer une plateforme avec des collectivités locales qui disent nous on est spécialisés, voilà le site disponible, voilà ce qu'on peut faire. Vous voyez, une espèce de...
Certaines le font
chez
déjà.
Moi, chez l'entreprise, je regarde et voilà.
Certaines le font déjà. On a fait une visite de terrain à Troyes notamment, qui s'est spécialisée notamment sur la logistique et le textile.
Chez François Barouin.
Par exemple, oui, mais c'était le département à l'époque qui avait fait le travail et qui avait à l'époque désigné une zone comme étant industrielle et qui avait purgé l'ensemble des études et réalisé en fait toutes les études nécessaires. Donc effectivement, là, ça facilite grandement le travail des industriels qui du coup se disent « j'ai une zone que les élus ont définie comme étant prioritaire pour l'industrie, elle a été purgée, elle est saine, on peut y aller et on peut y aller facilement ».
En moyenne, sur vos 70 témoignages, Guillaume Casparian, il y a combien d'enquêtes demandées pour une implantation?
Ça dépend énormément du terrain, je ne pourrais pas vous donner une réponse générique.
Non mais attendez, c'est 20, 100, 200, enfin,
si
c'est 3,
terrain,
c'est
si
quoi?
Vous êtes sur un terrain qui était une ancienne industrie, qui n'était pas agricole, sur lequel il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de buissons, il n'y a pas tous ces sujets-là, et en plus elle a été fouillée au niveau archéologique et on sait qu'il n'y a rien sous terre, très honnêtement, en 6 mois top chrono, vous avez les autorisations classiques qui se comptent sur les doigts des deux mains. En revanche, si vous complexifiez les choses, c'est-à-dire vous êtes sur un terrain où vous ne savez pas ce qu'il y a sous sol, vous avez des arbres, vous avez de la biodiversité, etc. Là, on n'a pas fait le calcul du maximum, mais vous montez à plusieurs dizaines d'études pour avoir les autorisations nécessaires.
Le côté clé en main, c'est très important. Hein. En l'occurrence, on l'a bien vu avec l'histoire de Safran, c'est qui voulait, c'est la viabilité, c'est qu'il y ait des parkings à aménager, qu'il y ait, tout soit prêt, quoi. À la limite, il n'y a plus qu'à construire l'usine, mais tout autour soit pris en charge par les collectivités. C'est un coût quand même très important.
Ça a un coût, mais ça peut se valoriser aussi sur le foncier. C'est-à-dire que les collectivités qui font toutes ces études disent aux industriels qui s'installent, vous savez, je vous ai fait gagner 6 mois, 12 mois, 24 mois, donc je vais vendre ou je vais louer le foncier un petit peu plus cher parce que je vous ai fait gagner du temps. Ça peut avoir aussi un intérêt d'un point de vue économique, parce que vous savez qu'il y a des taxes qui sont associées à l'installation, bien évidemment, d'industrie.
Bah, donc, sauf si les impôts de production finissent par diminuer.
Bien sûr.
C'est aux députés de la République En Marche que je m'adresse.
Ça peut être un des sujets. Vous savez qu'on travaille beaucoup dans le pacte productif 2025 sur ces sujets-là. C'est des sujets, bien évidemment, qui ressortent dans toutes nos discussions. Donc, on l'étudie avec la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, qui est pleinement mobilisée sur les questions industrielles.
Oui, mais c'est mobilisée sur beaucoup de sujets. Donc, c'est sûr que.
Mais elle l'est totalement et on a bien le message en tête. Maintenant, la question.
Vous dites c'est 2025 ?
Le pacte productif a vocation, comme l'a souhaité le président de la République, à produire le plein emploi à horizon 2025.
Oui. Non, mais les impôts de production, il n'y aura pas de baisse d'impôts de production d'ici 2025 ?
Je pense, c'est pas à moi de répondre, déjà on va attendre la copie budgétaire du gouvernement. Moi personnellement, je sais qu'il y a un sujet sur les impôts de production. Oui. Ils sont vécus comme étant assez injustes parce qu'ils sont sur le chiffre d'affaires. On n'a pas encore même produit qu'on est déjà taxé. Et on sent qu'il y a un sujet. L'autre sujet, c'est qu'il y a un équilibre budgétaire à tenir. On a des contraintes de dépenses publiques, d'équilibre des comptes qui font qu'effectivement, il faut faire des choix.
Le solde est négatif depuis 7 mois. Il était positif de création nette d'implantation d'usines en France. Donc, il a été pendant 3 ans. Puis là, depuis le début de l'année, le solde est négatif. Sur l'ensemble de l'année, vous avez une idée de ce qu'il sera ?
Alors, le solde est négatif. En revanche, si on regarde dans le détail, les fermetures restent stables et l'emploi industriel augmente. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est que généralement, les industriels préfèrent par facilité étendre des sites existants plutôt que de créer de nouveaux sites industriels. Alors, je ne vais pas me projeter sur un objectif quantitatif, mais je suis convaincu que si on met en place les 5 chantiers que j'ai proposés hier, on aura un parcours qui est simplifié et on recréera de la confiance.
Quand ? Justement.
Alors écoutez, les orientations ont été validées hier par le Premier ministre devant le Conseil national de l'industrie. Je poserai tout à l'heure probablement une question au gouvernement sur le sujet. Mais en tout cas, je pense que le gouvernement a pleinement conscience de l'enjeu et qu'il sera pleinement mobilisé pour mettre en œuvre ces chantiers qui posent une vraie question et une vraie difficulté sur la mise en œuvre. Il ne suffit pas de faire un rapport qui va finir dans un tiroir.
Non, ça c'est tout le problème, c'est toute la question.
Que ces 5 chantiers soient réellement mis en œuvre.
En plus, on a l'impression que ce n'est pas trop compliqué, quoi. Puis il n'y a pas de ce gros sou.
L'exécution est toujours
compliquée. Ah, enfin, on est en France, hein, sinon ça ne serait pas la France.
Faire attention.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Kasparian. Puis bonne chance, en l'occurrence, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui sont intéressés par ça. Et notre futur invité, Antoine Lemarchand, il est le patron de Nature et Découverte. Du reste, il vient d'ouvrir son siège. Il va nous dire s'il a eu beaucoup de difficultés.
BFM Business, l'heure H, l'invité.
Notre invité, bonjour Antoine Lemarchand.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc le patron de Nature et Découverte et puis co-président d'Entreprises et Progrès. Entreprises et Progrès, c'est pas le MEDEF, c'est pas la CPME, mais en tous les cas, voilà, c'est des entreprises qui veulent faire avancer un peu le bien commun, pour reprendre votre baseline. Antoine Lemarchand, vous avez entendu, c'est difficile, par exemple, vous venez de rénover une vieille gare, en l'occurrence, pour faire le site de Nature et Découverte. Vous êtes heurté à beaucoup de difficultés.
Alors c'est une halle, la SNCF, à côté de la gare Versailles-Chantier, qui est une des plus grandes gares d'Île-de-France. Donc c'est plutôt long que difficile. Donc il y a effectivement beaucoup de...
Vous êtes heurté à des chauves-souris, à des scarabées dorés.
Alors non, on n'a pas eu ça, mais on a... Versailles est déjà sur un terrain marécageux, à la base. Donc c'est une zone un peu plus compliquée. Et puis c'est une zone très sauvegardée, comme on le sait. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est une architecture aussi qui est très différente de ce qu'on peut trouver aussi à Versailles. Donc on a voulu plutôt impliquer tout le monde et concerter beaucoup de personnes pour établir ce projet. Donc c'était surtout long.
Antoine Lemarchand, justement c'est ça, il faut essayer de lutter contre ça. Antoine Lemarchand, avec votre père François Lemarchand, vous avez, avec Nature et Découverte, vous êtes vraiment des pionniers de tout ce qui est écologique, achat responsable, enfin, c'était même, je veux dire, vous avez été créé sur ce concept-là. Est-ce que, est-ce qu'il s'est passé hier à l'ONU, lorsque vous voyez les déclarations du président français, vous vous dites que les choses avancent, bougent ou pas ?
C'est très paradoxal. Non, je suis pas. Je suis plutôt un optimiste et je crois que tous les chefs d'entreprise que vous rencontrez doivent l'être. Il faut l'être. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, oui, on avance lentement. Il y a beaucoup de rencontres, de comités, de choses comme ça qui s'organisent. À côté de ça, il faut, et je pense qu'on ne le fait pas assez, célébrer quelques petits pas. Alors, certains disaient, on fait trop de petits pas. Malgré tout, c'est comme les morts sur la route d'écologie. Il faut aussi célébrer certaines étapes qu'on arrive à franchir. La France, par exemple, l'année dernière, a baissé ses émissions de CO2. C'était un entrefilet, il faut aussi le dire. Il y a des choses qui se passent, il y a plutôt des bonnes initiatives.
Greta Thunberg a tort de porter plainte contre la France.
J'ai pas vu en détail cette plainte, donc je peux pas me prononcer. Je crois qu'elle incarne la jeunesse qui met devant ses responsabilités les responsables politiques, qui aujourd'hui, effectivement, avancent très lentement, beaucoup de déclarations. On a un grand rendez-vous l'année prochaine, fin 2020, par rapport à la COP21 de 2015. Mmh. On verra qui est présent et qui est absent. Là, pour le moment, c'est vrai que le début de la course fait qu'il y a beaucoup de personnes près de la ligne de départ.
Ouais. Antoine Le Marchand, oui, ils avancent un peu comme un escargot, quoi.
À la fin.
La biodiversité, c'est important. Est-ce que pour vous, Nature et Découverte, est-ce que vous avez une fondation aussi? Vous êtes toujours aussi engagé, même depuis votre rachat par Fnac Darty?
Alors le rachat est très récent et
finalisé.
Notre entreprise a 30 ans, notre fondation a 25 ans et elle a été. On a imaginé ce dispositif avec Fnac dans un souci de continuité, bien entendu. Il y a un apport réciproque. Notre apport est principalement dans l'apport de produits écologiques, responsables, durables. Là où Fnac peut nous apporter beaucoup de surface de vente, une notoriété qui fait que Fnac fait partie des enseignes préférées des Français, et surtout aussi un dispositif, une plateforme digitale qui est très conséquente en France. Donc pour nous, ça nous permet d'avancer plus vite sur notre croissance, certes, mais c'est aussi, on se dit, l'écologie, il faut pas que ça soit juste l'apanage de quelques bobos de certaines villes. Il faut qu'on en fasse quelque chose de majeur.
On a été créé sur. Difficile pour vous de le faire tout seul.
Nous, on a été créé sur.
Nature et Découverte, c'est quand même une marque très forte.
Notre raison d'être, on a pris la citation du commandant Cousteau, qui est de dire on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc, notre volonté, c'est vraiment de faire de la pédagogie, de faire des ateliers, d'emmener les gens dans la nature, aussi de leur vendre des produits qui leur permettent de mieux comprendre la nature. 20% de notre chiffre d'affaires se fait en livre aussi, en éditorial. Donc, c'est un mariage qui est. Tout à fait logique entre un petit, on est une société familiale avec un acteur effectivement beaucoup plus important.
Enfin là maintenant vous êtes racheté.
Tout à fait. C'est un mariage qui est fait.
Demain il y a beaucoup d'actualités, donc ça concerne à la fois le patron de Nature et Découverte. Vous restez patron de Nature et Découverte.
Tout à fait. Ouais.
Et puis le patron d'Entreprise et Progrès, c'est que demain est discutée au Sénat la loi anti-gaspillage, la loi sur l'économie circulaire.
Oui.
On a du mal à percevoir qu'est-ce que ça peut changer pour une entreprise. Ça peut tout changer, mais ou rien changer.
C'est je lis le sujet avec le sujet précédent. Ce sont des lourdeurs administratives, mais nécessaires à faire. Il se trouve que les entreprises, et mon rôle de coprésident d'Entreprise et Progrès, vont être les acteurs du changement de demain, avec les citoyens. Mmh. On compte, et les citoyens comptent moins sur les politiques, même les ONG, et comptent beaucoup plus, en revanche, sur les entreprises. Donc, il y a une attente très, très forte vis-à-vis de nous.
C'est vrai ce que vous dites. Ce matin, je recevais Yannick Jadot à 8h15, et il disait « Mais je suis frappé par le nombre de chefs d'entreprise qui me demandent de les rencontrer ou qu'on se rencontre, parce qu'ils sont très préoccupés, beaucoup plus que les États, les politiques. »
On est préoccupé. D'abord, on a des salariés, des employés, et eux, aujourd'hui, les millennials notamment, ne veulent plus bosser pour une boîte qui n'est pas engagée, qui n'a pas de raison d'être, pas bullshit, qui est très claire, avec des vraies actions derrière. Et on a des clients, de plus en plus, et c'est plutôt une bonne nouvelle, qui nous force à faire ces changements.
Mais pour vous, par exemple, qu'est-ce que ça change?
La loi, moi, je suis toujours désolé de voir qu'on bouge à cause d'une loi. Voilà. Toujours désolé de ça.
Toujours, on est en France.
Pourquoi attendre une loi pour décider de faire du tri? Nous, je me souviens, une des idées que j'avais données à mon père il y a 30 ans pour la Nature Découverte, c'était de mettre des bacs de récupération de piles à l'entrée de tous les magasins. Oui. Bon, chaque année, on en récupère 5 tonnes, à peu près 5-6 tonnes. C'était il y a 30 ans. Et alors, on fait beaucoup d'autres choses, du CO2, la récupération de on a 12 filières de déchets. Donc, on n'a pas attendu la loi pour avancer. Ouais. Aujourd'hui...
Oui, c'est la base, c'est le concept même.
Ben, en fait, on est obligé, pour un mot, c'est être cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une économie et dans une société ultra-médiatique, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un manque de cohérence sur toute la chaîne de valeur de notre entreprise. Et ça, c'est le premier point. Oui. Et la deuxième, c'est qu'on le fait parce que nous sommes avant tout des écolos. On a vraiment envie. Alors, on n'est pas... nous ne sommes pas des fous, des ours ou des loups, ou des ornithologues ou autres. C'est pas notre métier. On ne sait pas faire ça. Nous, ce qu'on sait faire, c'est faire du commerce, faire des affaires, et on essaye de le faire le plus proprement possible. Mais même faire en sorte que l'existence même de notre entreprise et d'associations comme Entreprises et Progrès permettent à l'économie d'aller mieux.
Mais est-ce que vous sentez une vraie interpellation du côté des chefs d'entreprise? Parce qu'on voit sur le digital, il y en a quand même beaucoup, beaucoup de PME qui disent bon, finalement, est-ce que c'est vraiment utile? Alors qu'on sait bien que c'est essentiel. Hein. Oui. Non, mais vous voyez les sondages. Il y a un sondage, alors certes, maintenant, c'est il y a quelques mois, de BPI qui montrait que 80% des chefs d'entreprise montraient que ce n'était pas indispensable.
Le digital?
Le digital. Bah, écoute, non, mais espérons qu'en un an, je reçois bientôt Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, espérons que ça a changé. Ouais. L'écologie, est-ce que pour beaucoup, ce n'est pas un truc de bobo, quoi?
C'est juste, d'abord, on a intérêt à le faire. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, si les entreprises ne s'en occupent pas, on le voit d'ailleurs, c'est fantastique. Tous les jours, toutes les semaines, il y a des initiatives d'entreprises qui se font, même en dehors d'associations comme Entreprises et Progrès. Et c'est plutôt bien, je dirais. Il y a des entreprises comme Danone hier, voilà, qui ont fédéré des industriels, qui est un fer de lance.
Il y a Saint-Gobain qui se.
On a Kering qui a avancé aussi. Enfin, bon, je crois que je ne dois pas citer trop de marques, mais on voit un vrai foisonnement. Les entreprises prennent le sujet par intérêt, déjà, par intêt souvent du dirigeant.
Des actes, il ne faut pas rester dans de la com, hein, c'est ça qui est important.
Il y a des actes. Il y a le D3E. Bon, c'est une loi, mais le D3E, c'est 27 tonnes de déchets récupérés chez Nature Découverte. Mmh. La conversion en plastique, ce sont des actes, chez Danone comme chez Nature Découverte.
Et chez Fnac Darty, parce que le plastique, les disques, les livres, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez changer la culture de Fnac Darty?
Fnac Darty, typiquement, a mis en place un indice de réparabilité de tous ses ordinateurs portables. Donc aujourd'hui, on sait... comment...
Et pas des grille-pains et pas des machines à laver.
Pas encore.
Où il y a une obsolescence programmée.
Il démarre. Encore une fois, moi, ma réflexion, ma pensée, c'est de dire qu'il faut encourager tous ceux qui font des petites choses. Sinon, on trouvera toujours quelque chose à gratter. C'est très français de dénigrer celui qui a démarré une petite initiative et il se décourage. Il faut encourager ça. Et beaucoup d'entreprises le font parce qu'elles en ont envie. Déjà, parce que les salariés en ont envie, les clients en ont envie et le dirigeant en a envie.
L'obsolescence programmée, ça c'est un point très très important. Vous êtes capable de faire bouger les choses là-dessus, Antoine Lemarchand?
Ce que moi je veux faire avec Nature Découverte, et j'espère pouvoir le faire avec Fnac Darty, c'est avant tout changer les modes de consommation. J'ai un credo qui est de dire achetons moins mais mieux, et c'est plutôt ce qui se passe en France. Disons que les deux marchés du very low cost marchent très bien et du premium marchent très bien. Le problème est l'intermédiaire. Mais aujourd'hui, la responsabilité de l'obsolescence, certes, c'est celle des industriels, mais c'est aussi du prix qu'on met dans le produit.
Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de l'orage. Merci beaucoup, Antoine Lemarchand, donc le patron de Nature et Découverte, et puis aussi le co-président d'Entreprises et Progrès qui essaye de faire bouger les choses. Parce que vous avez raison, c'est du côté de l'entreprise que ça va se passer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'orage. On se retrouve demain à 8h15. Et puis, bien sûr, dans l'orage, bonne journée.